Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business en ce lundi 18 mai 2026. Merci d'être là sur le plateau de Tech & Co ce soir. Nous avons Christophe Honnête, Hugo Borenstein et Clément David. News qui vient de tomber, on en parlait juste avant cette petite pause. On va y revenir parce que c'est quand même le gros morceau de la soirée dans le monde de la tech. Elon Musk a été débouté il y a quelques minutes par ce fameux jury californien de ses poursuites contre OpenAI qui l'accusait, je vous le rappelle, d'avoir détourné ses dons et trahi sa promesse philanthropique afin de bâtir un mastodonte commercial de l'intelligence artificielle. Oui, c'était ça, c'est-à-dire que Elon Musk se sentait un peu trahi finalement puisqu'il avait investi, il avait créé en quelque sorte OpenAI il y a quelques années, je crois que c'était il y a un peu moins de 10 ans, ce qu'il ne supportait pas, il y avait aussi de la jalousie sans aucun doute, il ne supportait pas de voir le succès incroyable d'OpenAI, mais aussi, malgré tout, il ne supportait pas le fait de voir que cette boîte qui avait été conçue comme avec des, on va dire, une mission philanthropique était devenue une boîte commerciale qui engrangeait des bénéfices. Et c'est ça qui l'attaquait, en fait. En justice, il a été débouté pour prescription. Voilà, le jury a torché l'affaire en moins de 2 heures. Ça a été très rapide. Hugo.
C'est une énorme news, parce que ça détermine un peu le chemin philosophique qu'on prend sur l'AGI. C'est-à-dire que le cas de Musk, c'est de dire, j'ai donné, je ne sais plus combien, 20 ou 30 millions au début à OpenAI. On l'a appelé OpenAI pour tout ce que tu viens de dire, pour que ce soit ouvert et pas que ce soit privé, fermé, commercialisé. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Et lui, il dit que la conséquence, c'est que tu n'auras plus d'initiative collective, open source, disponible pour tout le monde sur la production de cette intelligence artificielle. Tous les modèles sont privés, tous les grands modèles sont privés. Et d'ailleurs, il dit ça très tranquillement en ayant lui-même un modèle privé,
bien sûr,
qui facialement est dans une fondation, etc., mais qui en fait est complètement privé, commercialisé, à usage
lucratif. Et qui a du mal aussi vis-à-vis, face à OpenAI.
Et qui a du mal, mais à la limite, un modèle d'open source complet d'IA, de LLM d'IA complet que tu puisses appréhender pour construire autre chose, même s'il est petit, ça te va. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as quasiment aucune alternative de la qualité du chat GPT de OpenAI. Donc, la conséquence de ce truc, et je trouve d'ailleurs que clôturer le cas sur un truc de formaliste, donc tu as dépassé de, je sais pas, 60 jours la date pour faire ta prescription, je dis n'importe quoi, mais c'est prescrit, c'est un peu léger pour un débat aussi important, au-delà des sous qu'Elon Musk a mis. Il y a la brouille entre eux, il appelle Sam Altman scam Altman, donc il estime qu'il a été scammé, qu'il a été lésé, mais ça veut dire qu'on n'a plus d'alternative open source du tout, il n'y a plus de open dans AI.
Christophe.
Moi, je suis très surpris aussi par la raison qui est avancée, c'est de la prescription. Donc, j'aimerais en savoir plus parce que, en général, les prescriptions, c'est des choses qui courent sur un nombre d'années très, très, très conséquent. Alors, peut-être c'est 10 ans et que la boîte a été créée il y a 10 ans et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais sachant que la rupture ou la scission entre eux, elle est postérieure à 10 ans. Donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre ça. Et je pense que connaissant Musk, il va probablement pas en rester là et chercher un moyen probablement de contourner ce jugement-là pour revenir peut-être plus sur le fond. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense que pour OpenAI, c'est certainement un soulagement parce qu'ils ont pas mal de fer au feu et de sujets de préoccupation. Le plus important étant d'arriver à trouver un modèle économique qui fait qu'ils fonctionnent par eux-mêmes et en générant leurs propres revenus sans avoir besoin constamment de lever des fonds. Ils sont très très loin d'en être là. Ils viennent d'être dépassés en montant de revenus annuels par Anthropic. Ils sont plus du tout le seul. Et on voit bien à quel point la concurrence est rude et donc il y a beaucoup une difficulté plus forte de monétisation, d'augmenter les prix si on est en situation de concurrence. Donc ils ont devant eux pas mal de challenges dont on va reparler probablement dans un instant. Et bon, c'est certainement un soulagement, mais je pense que l'affaire est pas tout à fait finie et le sujet des modèles ouverts reste entier, ça c'est sûr.
C'est entier, c'est intouché. Et après, il y a quand même un gros point de friction sur Sam Altman lui-même. Je ne sais pas si vous avez débriefé des textos qu'il a fait avec son board qui sont sortis dans la presse il y a deux trois semaines, où tu vois que le board ne veut juste plus le voir lui, ne veut plus l'avoir dans la pièce. Il y a cette fâcherie avec son investisseur number one, il y a cette fâcherie avec Dario de Anthropic, puisque quand même un de ses managers, si je résume, un super manager, mais c'était quand même un mec dans son équipe. Il y a toute l'ancienne équipe de recherche, donc il y a peut-être quand même un sujet aussi de personnalité autour de Sam Altman.
Ouais, Clément. Le OpenAI, mais c'est ce que tu disais, le OpenAI qui, pour lequel on a la réponse maintenant sur le procès, n'est pas le OpenAI qui a été attaqué il y a deux ans. C'est-à-dire qu'il a attaqué la hype plus que l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va parler un peu des gesticulations de la stratégie d'OpenAI, de leur produit qui est nettement moins, qui avant était perçu comme le produit numéro un du marché. Il y a quand même pas mal d'alternatives aujourd'hui. Je veux dire, je pense qu'on aurait eu... là, on est plutôt sur l'impact pour OpenAI. Il aurait plutôt été si il avait gagné, que Sam Altman avait dû dégager quelques mois, peut-être aller un an avant que ça rentre en bourse. Là, pour le coup, ça aurait déstabilisé tout le marché. Mais on était plus sur une guerre d'ego que sur une vision spécifique pour le marché. Juste précision, mais faut rappeler que Musk, il avait quand même à un moment proposé lui-même une structure for profit pour OpenAI sous réserve qu'il en prenne le contrôle. Clairement, il a proposé une fusion avec Tesla. Je veux dire, bon, c'est pas comme si lui-même avait une vision très très rationnelle de ce genre de choses. Et t'as parlé d'une certaine ambiguïté aussi sur Grok.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette prescription, elle serait due au fait que Elon Musk se serait réveillé trop tard juridiquement. Il aurait dû attaquer, en fait, OpenAI beaucoup plus tôt. Et en fait, le jury a estimé qu'il était au courant, en fait, de cette transformation d'OpenAI dès la fin 2021 et qu'il n'a pas réagi à ce moment-là. Il a commencé à entamer la procédure en 2024. 3 ans plus tard, en fait.
Au moment où ça aurait... C'est pour ça que c'était l'angle un peu d'OpenAI qui disait en fait, ils cherchent pas justice, ils cherchent à déstabiliser un concurrent.
Oui,
c'est-à-dire que
ça,
c'est pas prescription au sens les faits sont fermés, tu peux plus faire de procès parce que le délai légal est écoulé. C'est prescription parce que si tu l'as pas fait dans les... au moment, mais tu le fais maintenant, t'es pas de bonne foi dans le fait de faire un procès OpenAI.
C'est intéressant, parce que finalement, moralement, on n'aura jamais la réponse, parce que c'est pas l'aspect moral qui a été jugé, mais là, c'est tout simplement un délai.
C'est-à-dire qu'il le voit comme une tentative de déstabilisation.
Ouais, tu vois, c'est clair.
Il y a quand même un truc.
Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire, hein. C'est tombé il y a quelques minutes à chaud sur ce sujet, et c'est vrai que c'est quand même la grosse actu tech de ce soir. On reste dans l'univers d'OpenAI. OpenAI qui, vous le savez, ces dernières années a passé pas mal de partenariats, et un qui avait fait grand bruit, c'était en 2024. Il avait été annoncé lors de la WWDC d'Apple. Vous le savez, c'est cette grande conférence des développeurs qui a lieu chaque année en juin. Et Sam Altman avait fait même le déplacement. Il était venu à Cupertino. Il était dans l'assistance lorsque Tim Cook présentait ses nouveautés pour dire, bah écoutez, voilà, je viens de passer un partenariat avec Apple, et ce partenariat, c'était le fait de booster un peu Siri qui était dont on avait promis monts et merveilles en 2024, et Apple a raté complètement la transformation de Siri. Mais déjà Apple annonçait ce partenariat avec OpenAI pour que lorsque vous posez une question à Siri, en disant simplement va chercher la réponse sur ChatGPT, Siri se connecter à ChatGPT et vous donner une réponse un petit peu plus, on va dire, intelligente. Sauf que, eh bien, aujourd'hui, 2 ans après, OpenAI n'est pas content de ce partenariat parce que, en fait, il n'a servi à rien. OpenAI est même vexé et veut rompre ce partenariat. C'est étonnant, hein, parce que d'un côté, il y a Sam Altman qui dit on a tout fait pour implémenter cette intelligence dans Siri, etc. Mais à aucun moment, Apple n'a fait un effort pour promouvoir en fait cette fonctionnalité. Et c'est vrai. Voilà. Qui, aujourd'hui, demande à Siri va voir sur ChatGPT si... je sais pas quoi. Voilà.
Bah, directement sur ChatGPT.
C'est ça.
En fait, oui, je pense qu'il y a une frustration parce qu'en fait, l'idée, le deal, enfin, vu d'OpenAI à l'époque, quand ils l'ont signé, à mon avis, c'était de se dire, je vais.
Alors, c'est drôle. Je vous raconte ce qui se passe. C'est que j'ai cité Siri et ChatGPT. Et là, c'est drôle parce qu'il me dit, je me connecte à ChatGPT pour répondre à ta question.
Donc, on va rassurer en direct.
Je pense que
Sam Altman,
le seul Français.
Ça marche.
Pense que j'ai été le seul Français à faire cette requête et en direct.
Voilà. Donc, il va changer d'avis puisque maintenant, il va y avoir un utilisateur qui va l'utiliser.
Et là, il va changer d'avis. Il va dire, c'est bon, ça marche.
Un influenceur.
Attention. frustration. Non, mais bon, il y a une frustration certainement parce que je pense qu'ils voyaient l'opportunité pour OpenAI et ChatGPT d'arriver sur le, je sais pas combien il y a d'iPhone, le milliard ou le plus de 2 milliards d'iPhone qui existent dans le monde. Donc, c'était une énorme accès au marché à l'utilisateur. Mais évidemment, Apple l'a beaucoup plus utilisé pour dire dans son,
voilà, un peu
dans,
la route
dans son
secours,
brouillard
quoi.
De communication autour de l'intelligence
on
artificielle.
On met un peu de ChatGPT, ça fera plaisir à tout le monde.
Ça permet d'attendre, on a ce qu'il faut, on peut faire appel, mais bon, on le met pas trop en avant parce qu'on n'a pas tellement envie qu'ils viennent saisir la relation utilisateur, parce que c'est vraiment ça, ils veulent garder la main. Idéalement avec SIRI.
Bien joué. Très bravo. Bravo. Je suis désolé, hein, parce qu'on a peut-être fait déclencher quelques téléphones ce soir. Je n'y suis pour rien.
Et donc, Jean, je pense qu'il y a cette frustration, donc ils veulent revenir certainement en arrière, et d'autant plus que Apple, entre-temps, est dans une valse hésitation sur le sujet, en tout cas de ce que moi j'observe, de l'IA. Peut-être avec une idée en tête qui est de venir avec sa propre solution, qui n'est pas forcément prête aujourd'hui, qu'elle n'a peut-être pas encore trouvée, parce que moi je trouve ça extrêmement surprenant de voir Apple à adopter Gemini, qui est probablement... Ils ne vont pas androïdiser les iPhones, ça n'a juste pas de sens. Donc, le brouillard IA, pour moi, continue côté Apple, et Sam Altman s'impatiente parce qu'il ne retire rien de cet accord, mais je pense que c'est vraiment ce que voulait aussi Apple.
Oui, parce que c'est vrai que Clément, quand on passe un partenariat avec Apple, c'est la machine à cash, en théorie. C'est ça qui est dingue.
En théorie, je pense...
Parce que tu te rends compte, excuse-moi, je te coupe, mais finalement, d'un coup d'un seul, ChatGPT était disponible sur des milliards d'iPhones dans le monde. Oui. C'est ça qui est dingue. Et ça a fait plouf, ça n'a pas marché.
Ça a fait plouf parce que c'est un service gratuit et que OpenAI espérait des conversions payantes en disant les gens vont être tellement addicts à ChatGPT qu'ils vont essayer, ils vont prendre des abonnements payants, etc. La vérité, c'est que pour ça, il faut qu'il y ait du volume.
Et puis, je pense qu'ils avaient un deal financier aussi avec Apple. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de requêtes, Apple allait payer sans doute OpenAI, non ?
C'est pas si clair. En fait, il y a beaucoup d'analystes, moi, j'ai pas le détail de l'accord, mais il y a beaucoup d'analystes qui pensent que c'est pas en termes de performance, en termes de contractualisation autour de la bonne foi de l'intégration et tout, qu'OpenAI a fait une grosse faute de débutant dans la manière dont ils ont justement structuré le deal. Mais le fait est que ça leur apporte pas grand chose. C'est plutôt courageux d'avoir dit on arrête, parce que ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'en fait, c'est eux qu'on dit on arrête, on cherche à sortir, même au moment où on leur a proposé de prendre une partie de ce que Gemini va prendre là dans les années qui viennent, c'est eux qu'on dit non. C'est quand même un marché où j'en parle souvent ici, mais la théorie des boîtes des vendeurs entre guillemets de modèles, les OpenAI, les Anthropic, etc., c'est que l'océan bleu il s'arrête à la fin d'année là, donc tu peux pas être sur tous les fronts en même temps. Pour une boîte qui veut déjà sortir, qui doit sortir ses modèles, qui doit sortir son système agentique, qui doit sortir peut-être un téléphone portable, qui doit maintenir une application mobile, qui veut, enfin, donc
ça fait beaucoup,
il resserre un peu le faisceau. Moi je pense qu'Apple s'est acheté du temps. Apple, ils ont fait un peu, avec tout le respect pour Microsoft, qui est une entreprise extraordinaire.
Tu sais, il y a prescription.
Merci.
Ils ont mis le coup de tampon OpenAI. Regardez, on est super innovants parce que nous aussi, on est moderne, on utilise OpenAI. Pendant 2-3 ans, à mon avis, ils n'avaient pas tellement l'intention de faire quoi que ce soit. Mais en revanche, ils avaient encore à ce moment-là la croyance, et moi je pense que c'est fini, qu'ils pourraient développer Siri. On sait qu'il y a eu des allers-retours, des valses hésitations. Ils pensaient vraiment que la dette technique, ils n'allaient pas mettre 2 ans, par exemple, à passer de 10 Siri à juste Siri. Et qu'ils pensaient que la dette technique était maîtrisable, que Apple Intelligence, ils allaient tout faire en interne. Et donc, à mon avis, ils se sont achetés du temps à une vitrine. La question un peu qui se pose, c'est... Pourquoi est-ce que ça les gêne d'avoir un partenariat vraiment utile avec OpenAI alors que ça les gêne pas avec Google? Mais à un moment aussi, tu as la prime au partenariat de 20 ans, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que Google dépense des milliards pour que le moteur de recherche soit pas par défaut. Ça fait 20 ans aussi que Google a une stratégie plutôt claire sur ce qu'ils veulent faire et qu'ils sont pas comme, tu vois, on sait ce qu'ils vont faire dans l'IA. Ils sont pas comme OpenAI en train de dire attendez, on veut être une super app, mais en même temps, on a recruté votre ancien d'Apple pour sortir un téléphone portable parce qu'on veut être la surcouche d'OS de machin. Et moi, je serais Apple, je regarderais ça, je dis en fait, c'est le loup dans la bergerie, tu vois, j'ai Zébulon qui court partout, qui peut lancer tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Évidemment que je vais pas leur servir de base d'abonnés pour ChatGPT, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment, Google est fiable et rassurant là où OpenAI n'était pas.
Hugo ?
Ouais, bah, je suis d'accord avec tout ça. C'est aussi une bonne façon pour OpenAI, pour pas cher, du coup, de se différencier d'Apple. De dire, on lâche notre partenaire, puisque c'est un des partenaires qui lâche l'autre, là, dans cette histoire. Donc, c'est pas mal, surtout au moment où Microsoft et d'autres se reposent la question de comment ils se positionnent par rapport à OpenAI. Ouais. Donc, Est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train d'en profiter pour donner une caution à d'autres partenaires ? On arrête de bosser avec Apple et son écosystème parce qu'on va donner tel exclu ou telle commercialisation à un autre.
Je crois aussi qu'ils veulent absolument se repositionner, ils veulent mettre toutes leurs forces sur le B2B, quoi, qui est vraiment essentiel. Là, on parle aussi de cette volonté de créer avec un certain nombre de partenaires une méga société de consulting autour des un peu à la Palantir, qui est à mon avis une des planches, une des voies de sortie pour OpenAI, c'est vraiment de se déplacer vers la mise en œuvre et la transformation IA des entreprises. Mais c'est pas... ça nécessite beaucoup d'efforts.
Culture. Juste un truc. Oui, c'est vrai que ce que dit Hugo est vrai. C'est un peu la honte aussi d'être associé à Apple aujourd'hui dans le monde de l'IA. Je veux dire, il y a un coût. On parlait d'un coût en termes d'équipe ingénierie, etc. Mais il y a aussi un coût de marque qui est aujourd'hui, la plupart des gens comprennent pas exactement Siri. Est-ce que c'est OpenAI ou pas? Siri, c'est l'âge de pierre. Tu peux mettre un minuteur pour te faire, je sais pas, un œuf à la coque. Je veux dire, si t'es OpenAI, est-ce que t'as chaque requête un peu médiocre avec Siri? Si tu te dis que ça impacte mon image, c'est pas top. Et quand c'est la course aux ingénieurs pour recruter les mecs les plus stylés, t'as pas envie de devoir dire au mec, ouais c'est vrai on a bossé avec Apple mais faites pas trop gaffe parce que c'est pas le truc le plus important, tu vois, c'est mauvais pour la marque aujourd'hui de travailler avec Apple, c'est triste.
Ouais, c'est dingue quand même, alors qu'Apple a toujours été une boîte avec laquelle on était fiers de collaborer, quoi. D'ailleurs, Apple va jouer sans doute très très gros dans quelques jours maintenant, hein, puisque ce sera en juin que se déroulera la WWDC. C'est rigolo parce que en tout début d'émission, j'ai reçu le mail d'Apple qui parlait justement, qui nous invitait à cette WWDC qui aura lieu donc le 8 juin à 19h. Donc la keynote sera aussi bien évidemment à suivre en direct sur BFM Business dans Tech & Co, la quotidienne. Je disais que c'était une WWDC de tous les dangers pour Apple parce que il va falloir qu'ils se rattrapent là. Il va falloir qu'ils proposent concrètement des choses qui fonctionnent et qu'ils annoncent une roadmap en termes d'IA. Alors, visiblement, le partenariat avec Gemini, là, avance. C'est peut-être aussi pour ça qu'OpenAI veut se désolidariser aussi d'Apple. C'est que, finalement, Apple a choisi son cheval. C'est Google, c'est Gemini, qui sera le moteur de Siri. Tu parlais tout à l'heure, justement, de ce choix un peu étonnant, d'androïdiser, mais visiblement, d'après ce que j'ai compris, Apple achète le moteur Gemini, mais il est déconnecté de chez Google, finalement. Ils achètent un petit peu la marmite.
La licence,
oui. Voilà, mais pour schématiser, c'est la marmite, mais à l'intérieur, ça sera quand même des données en silo d'Apple, qui n'iront pas communiquer avec Google. Donc, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Et donc, visiblement, et c'est l'actu de ce soir, c'est que lors de la WWDC, Apple devrait annoncer son Siri qui serait en bêta, mais qui pourrait fonctionner très rapidement. Un Siri donc boosté à Gemini.
Oui, je pense que tout le monde attend à ce qu'ils reprennent. Enfin, on vient d'exprimer une frustration aussi sur Apple, bien et sûr. Je pense qu'elle est partagée par... également par les investisseurs, par la communauté des utilisateurs, en se disant, bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire sur l'IA? Donc, je pense qu'ils ont comme objectif de montrer qu'ils reprennent les rênes de l'IA, qu'ils définissent et clarifient la stratégie. Donc, effectivement, sur Gemini, peut-être, effectivement, ils vont limiter cette dépendance à Google et le fait, effectivement, ils doivent absolument éviter que le téléphone iPhone ressemble trop à ce que va devenir un téléphone Android boosté à Gemini, qui va pouvoir aussi pas mal transformer l'interface utilisateur, l'expérience client, etc. Donc, ils vont devoir s'appuyer là-dessus. Peut-être vont-ils aussi développer leur propre modèle de langage. Il y a un certain nombre de rumeurs qui disent qu'ils pourraient avoir des small language models intégrés aux puces elles-mêmes, qui permettraient notamment d'avoir un dialogue extrêmement rapide et renforcer le message sur le respect de la vie privée et des données de l'utilisateur, qui est leur cheval de bataille. Et on parle même d'une sorte de capacité de ces puces à pouvoir faire du mesh entre différents iPhones pour pouvoir utiliser la puissance de calcul un peu plus distribuée. Donc il y a peut-être une roadmap un peu excitante et nouvelle
autour de ça. Un petit peu plus original que ce qu'on a pu vivre. Alors vous savez que chez Siri, tu le disais, la confidentialité est importante et ce Siri serait évidemment modulable, c'est-à-dire que pour les personnes qui veulent pas justement partager leurs données privées, vous pourriez supprimer les conversations, un contrôle de l'historique, confidentialité qui serait activée par défaut, gestion transparente des données. On voit qu'Apple essaie aussi de garder sa ligne, oui. on va dire, je dirais, intellectuelle, finalement. Hein. Nous, on n'est pas Android, on n'est pas Google. Certes, il y aura Gemini qui va faire tourner ce Siri, mais il sera aux conditions de, on va dire, de confidentialité d'Apple, Clément.
Oui. Moi, tu sais, la dernière fois qu'ils ont annoncé un Apple Intelligence, c'est génial, et on attendait tous, ils ont annoncé qu'on pouvait faire ses propres smileys via l'IA.
Donc, ouais. C'était pas bouleversant.
C'était pas fou. Ouais. Donc, je me dis.
Ouais, t'es un peu méfiant, là.
Moi, c'est quoi, chat échaudé,
crâne l'eau froide?
Froide. Voilà. Non, et puis, dans un contexte de changement de direction, j'attends de voir si on va voir sur cette nouvelle stratégie une patte un peu différente de celle de Tim Cook, qui manifestement était un peu en bout de course, était plus un gestionnaire avec une excellence opérationnelle, vraiment quelqu'un qui savait envoyer de la vision. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir qui prend la parole, machin.
Ouais. Est-ce que c'est John Ternus qui va... Ouais. Bah, en théorie, c'est toujours Tim Cook qui sera le CEO en juin, hein, puisque le passage de flambeau se fait en septembre.
Peut-être moyen de faire un truc un peu malin, quoi.
Peut-être. Il nous reste quelques minutes. On revient en France pour s'intéresser à Publicis, qui signe la troisième plus grosse acquisition de son histoire. Le numéro 2 mondial de la publicité vient de boucler en effet le rachat de LiveRamp, qui est le spécialiste américain des données, pour 2,2 milliards de dollars. Une opération qui confirme en fait la trajectoire tech prise par le français depuis plusieurs mois. Margot Faudéré nous raconte tout ça et puis après on débat là-dessus juste après, bien sûr.
Pour rester dans la course à l'intelligence artificielle, Publicis choisit de prendre les devants et de se positionner lui-même comme un spécialiste de la donnée. En acquérant LiveRamp, dernière étape en date de cette stratégie, le français accélère plus particulièrement sur l'agentique, avec une technologie qui doit permettre à des milliers de marques, de distributeurs, de plateformes médias et de fournisseurs de données de collaborer ainsi que de connecter leurs données de manière efficace selon le groupe. Au premier trimestre déjà, Publicis a acquis Edge AI, spécialiste liste de la mesure de performance des campagnes publicitaires, mais aussi l'agence américaine de marketing sportif 160 over 90 et Epsilon en 2019. Un dynamisme à rebours des autres acteurs de la publicité, WPP et Dentsu ayant fortement réduit leurs effectifs ces derniers mois, mais aussi à contre-courant de la stratégie déployée par le numéro 1 du secteur, Omnicom, qui depuis sa méga-fusion avec IPG, opte surtout pour les rachats d'actions. Et pour l'instant, la stratégie de Publicis semble payer. Le groupe affiche des résultats financiers solides et relève même ses objectifs à moyen terme.
Alors c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le marché publicitaire, pour notre géant de la pub français, hein, Publicis. Et puis, c'est surtout aussi un symbole de notre époque qui bouge, c'est-à-dire que même le secteur de la publicité est totalement impacté aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Oui. Christophe ou Hugo
Moi, j'allais juste dire que ça fait plaisir de voir un champion français qui arrive à se transformer, parce que là, on met la pâtée à tous les autres grands networks mondiaux. C'est rappelé dans la petite pastille. Les autres sont tous soit très mal en point, soit très loin. Donc, on va peut-être devenir le numéro un, qui était le rêve du grand patron de Publicis, de Maurice Lévy, quand il a essayé de faire plusieurs fusions. En fait, ils vont le faire par eux-mêmes en acquérant toute cette stack technique. Le deuxième aspect.
Est-ce que c'est ou pas, en fait, LiveRamp? Qu'est-ce qu'ils font exactement?
En fait, vas-y, finis.
Non, je t'en prie, vas-y.
En fait, là où c'est smart, c'est que ça permet d'analyser, d'interopérer de la donnée de tous tes clients sans que les clients, eux, aient à partager leurs données. Donc, t'es L'Oréal, par exemple, tu vas faire de l'agentique. Et donc, tu dis, pour des campagnes agentiques, je veux laisser la main, je veux que l'agent ait tapé dans des données, etc. Et si possible, pas que les miennes. Publicis, au lieu d'être l'entreprise qui va te dire, nous, j'ai des mecs, on peut organiser votre campagne de pub, dit, confiez-la à nos agents qui, par ailleurs, ont les données de plein d'autres acteurs dans plein d'autres domaines, etc. Donc, ils peuvent automatiser des super campagnes. Mais vous inquiétez pas, vos données, personne ne les verra jamais. Tout reste anonymisé et on n'a pas accès aux fichiers les uns des autres. Donc, ça sera jamais visible facialement. Et résultat, tu vends une excellence opérationnelle dans les campagnes de pub automatisées via l'agentique, qui par ailleurs se marie très bien avec Epsilon qui leur fournissait de la donnée, etc., les autres achats qu'ils ont fait précédemment. Je pense que c'est extrêmement intelligent.
La grosse news là dans Publicis, c'est ce que tu dis, c'est que Publicis a compris le futur rôle de l'agence du conseil. Ça n'est pas de faire, c'est d'orchestrer. C'est ce que tu viens de dire. D'orchestrer la data, d'orchestrer la production.
Mais en ayant la donnée, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas juste on a des agents.
Et la valeur vient du fait que tu détiens ta donnée.
Exactement.
Ce qu'ils font, mais ce qui était déjà le move avec Epsilon il y a quelques années. Mais en tout cas, ils ont compris parce que tu as quand même un son de cloche partout. Tu parles à n'importe quelle petite agence, n'importe quel freelance, il va penser que son business est menacé, que l'IA va tout automatiser, qu'il aura plus de, il aura plus de business, il aura plus de clients, etc. Mais la réalité, quand tu regardes, c'est que une marque, n'importe quelle taille de marque, elle a besoin d'être conseillée, elle a besoin d'être accompagner. Elle va pas tout faire elle-même. Donc eux, ils sont sur la data qui va venir nourrir les workflows d'IA, mais c'est le cas sur toute la chaîne. Donc un, chapeau Publicis, parce que tu mènes le combat au niveau mondial et tu gagnes. C'est quand même pour une fois exceptionnel. Il faut quand même applaudir. Et deux, ils ont compris là où est la pertinence du modèle de conseil. Donc moi, je dis voilà, sans sur son.
Non, ils ont opéré depuis plusieurs années une transformation de leur business, et c'est sûr que quand on utilise IA, on se dit bah finalement les agences de création, le media planning, tous ces épisodes, on se dit bah finalement ça peut être tout à fait complètement disrupté par l'IA. Donc ils ont absolument besoin d'évoluer, de passer d'une activité de conseil à une activité de plateforme. Et l'intérêt de la LiveRamp, hein, je veux dire, quand tu vas acheter un jean par exemple chez Zara, tu l'achètes et puis le soir tu es sur ton canapé et puis tu vois des pubs qui... Parce qu'ils ont repéré que c'est toi, mais ils t'ont pas ton nom forcément. Ils ont fait ce qu'on appelle la résolution d'identité, c'est-à-dire qu'ils te mettent de façon anonymisée, t'es XYZW et on te suit, on sait ce que tu as fait. Et même si t'as pas donné ton email et ton numéro de mobile au vendeur avec la carte bleue, parce qu'il faut pas oublier que
ouais, bien sûr. Et puis,
toutes ces données sont
rendues à
la géolocalisation, etc. Ils arrivent à résoudre et comme ça, ils arrivent à orchestrer des campagnes extrêmement bien targetées, c'est-à-dire que voilà, les bonnes vieilles campagnes qu'on connaissait, nous, François, qui était de l'outreach en disant « je balance un message et j'espère que quelqu'un va le recevoir ». Aujourd'hui, c'est complètement différent. Tu investis en disant « je veux les gens de plus de 35 ans qui ont tel, qui habitent dans tel ». Voilà, et donc je sais le faire. Et leur force, c'est que leur plateforme va permettre de connecter les outils CRM des grandes marques à leur tuyauterie et de vendre ainsi un abonnement, et il se transforme vers une offre plus logicielle et pas conseil.
Ouais, la pub qui est en train d'être, là encore, comme énormément de secteurs, bouleversée par l'IA. On n'a pas parlé de la création, mais là aussi, enfin, tu es un peu là-dedans, hein, puisque
nous, c'est notre métier.
C'est ton job.
Ouais, nous, OMI, ça permet de créer des visuels pour les marques à l'image de marque grâce à une technologie d'IA et de 3D. Mais tu vois, les marques avec lesquelles on travaille, t'en as cité une, j'ai pas le droit de la citer à la télé, mais tu l'as cité tout à l'heure, qui est un de nos grands clients de cosmétiques français, commun avec Publicis.
Normalement,
vous avez trouvé, qui va très bien. Ils ont besoin d'énormément d'accompagnement. C'est-à-dire que quand ils utilisent une technologie comme nous, il y a des équipes qui vont savoir se l'approprier et l'utiliser, puis il y a d'autres équipes qui vont avoir besoin d'un conseil. Et c'est là où ces acteurs-là sont pertinents. Donc, qu'un Français soit en train de construire la première plateforme d'orchestration de tous ces workflows au niveau mondial, chapeau.
Eh bien voilà, bravo à Publicis. Clément, c'est bon ?
Non, c'est le mot de la fin, c'est cool.
On a fait, on a fait le tour. Merci beaucoup à tous les trois, voilà un super débrief. Clément David était là, merci Clément.
Oui, c'est
Théodo Cloud, Christophe Holnett, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France Asie du Sud. Et merci à Hugo Borenstein, cofondateur et président d'OMI.